au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Jeudi 29 janvier, j'espère que vous avez passé une belle journée. C'était tellement beau ce midi, faisait soleil et puis là on s'est retrouvé avec un peu de neige au cours de l'après-midi. Cette foutue neige qui veut pas nous abandonner. Bon, à l'émission aujourd'hui, on va parler de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, qui est en route vers un couronnement. Également à l'émission, Patrick Capolupo et Anne-Marie Picard vont parler de formation pour les enseignants qui sont sans brevet. On avait d'ailleurs abordé le sujet à l'émission hier. Mais tout d'abord, qui l'eût cru? Donald Trump influence même l'humeur des électeurs au Canada. Et le dernier sondage léger dont on a parlé hier avec Pierre Paquette donne 58% d'intention de vote aux libéraux, une hausse de 9 points. Même les conservateurs qui grimpent de 2 points à 38%. Le Bloc québécois qui perd 12 points au Québec avec un score de 26% quand on regarde ça dans l'ensemble. Ben, on peut dire que ça donne les coups des franches tout de même aux libéraux de Mark Carney pour se retrouver en position d'un gouvernement majoritaire et le NPD qui... ça va très, 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 très mal pour le NPD qui est toujours sans chef. Et je rappelle que malgré que ça soit pas très médiatisé, il y a actuellement une course à la chefferie du côté du NPD. Et François Morin a échangé là-dessus avec notre analyste politique Mathieu Bélanger.
Pas tant surprenant parce que depuis le début de l'année 2026, beaucoup d'événements militent en faveur du Parti libéral ou que les Québécois et les Canadiens appuient le Parti libéral. D'abord et avant tout, ben les mêmes raisons qui ont fait en sorte qu'il y a un an, les électeurs, les électrices ont voté justement pour Mark Carney et sa formation politique, c'est-à-dire Donald Trump. On est toujours dans les mêmes relations et dans les mêmes tensions avec Donald Trump. Et dans les derniers jours, surtout avec le discours de Davos, de Mark Carney, qui a été très bien perçu un peu partout sur la planète, dont au Canada, et qui a provoqué des réactions du côté du sud de la frontière, ben ça aussi, ça a poussé des gens à se dire, ben qui va plus me protéger de Donald Trump? Ben c'est probablement, d'après ces individus-là, d'après un certain nombre d'électeurs, d'électrices, un des deux principaux partis politiques. C'est surtout ça qui ressort du dernier léger et ben plus particulièrement le Parti libéral du Canada parce qu'on voit surtout c'est une diminution du vote envers le Bloc québécois et envers le nouveau Parti démocratique et lorsqu'on regarde les divers sondages depuis un certain temps sur la cote de popularité des chefs, ben il y a un certain amour, une certaine affection envers Mark Carney. On peut pas nécessairement parler de Carney Manny, mais une certaine affection quand même par Mark Carney, alors que de l'autre côté, il y a beaucoup d'électeurs et d'électrices qui sont méfiantes envers Pierre Poilievre, le chef du Parti conservateur. Donc, ça explique quand même là, ces sondages-là qui favorisent là, grandement le Parti libéral du Canada.
Avant de parler justement de Pierre Poilievre, on peut se pencher sur la baisse, mais assez drastique, là, de la popularité du Bloc québécois.
C'est les souverainistes, les Québécois, plus largement, ben sont comme les autres Canadiens. C'est-à-dire que, si on suit au sondage toujours, là, de ce qu'on peut voir à ce stade-ci, ils veulent quelqu'un qui va protéger finalement leurs intérêts actuels. Puis c'est surtout la question, c'est qui pour former le meilleur gouvernement pour être capable de tenir tête à Mark Carney. En ce sens-là, ben tant le Bloc québécois, évidemment, et le NPD, clairement, ne peuvent pas prétendre dans un avenir prévisible à former le gouvernement. Le Bloc québécois ne prétend tout simplement pas à former le gouvernement. Et donc, ben ça peut pas être eux le gardien des intérêts canadiens, incluant les intérêts du Québec. C'est donc pas surprenant que le vote aille envers les libéraux et dans une certaine mesure envers les conservateurs. C'est ce qu'on a vu aux dernières élections aussi, où là aussi il y a une perte de vote envers le Bloc québécois et envers le NPD. Et qui s'expliquait beaucoup, encore une fois, par ces deux mêmes mots qui marquent l'actualité politique depuis un petit peu plus d'un an, Donald Trump.
Est-ce que par la bande, le Parti québécois pourrait souffrir de cette impopularité grandissante du Bloc?
Il y a quand même des enjeux qui sont différents. C'est-à-dire que autant au fédéral, on veut chercher quel gouvernement va le plus nous aider. Et là, il y a deux partis qui sont potentiels pour ça, le Parti libéral, le Parti conservateur. Sur la scène provinciale, Ben, forcément, les différents partis politiques ne prétendent pas à gouverner le Canada, évidemment. Et le Parti québécois est un parti qui a gouverné à de nombreuses reprises dans l'histoire et qui peut prétendre donc à former un bon gouvernement pour défendre les intérêts le plus spécifiquement du Québec concernant tant le reste du Canada que les États-Unis, dans ce que le gouvernement du Québec peut agir là-dessus. Donc, c'est pas le même réflexe qu'on a nécessairement. Cela dit, gardons en tête que là où il y a un danger pour le Parti québécois, puis ça a été mentionné de nombreuses reprises, c'est que Paul Saint-Pierre-Plamondon milite vraiment pour la souveraineté, mais aussi d'avoir un référendum au sein d'un premier mandat. Et les différents sondages montrent que non seulement une majorité de la population ne souhaite pas l'indépendance, mais qu'une majorité de la population, incluant un certain nombre de gens qui voteraient oui, ne veulent pas d'un référendum présentement. Le discours qui est débattable, mais quand même qu'on entend beaucoup à l'effet de dire sous la menace de Donald Trump, on peut pas se permettre l'indépendance du Québec, mais c'est un discours qui circule justement beaucoup et qui fait mal à l'option souverainiste. Pour l'instant, par contre, ce que les électeurs au niveau québécois dans le contexte des élections provinciales à venir cette année semblent se dire, d'après les différents sondages, n'est pas tant est-ce que je veux l'indépendance du Québec ou pas, mais est-ce que je veux me débarrasser de la CAQ ou pas, et qui peut le faire? Et tant que c'est ça la question de l'urne, le Parti québécois, ça le favorise beaucoup. Si éventuellement la question de l'urne n'est plus ça parce qu'il y a une autre option viable, au sein même de la CAQ peut-être, avec la course à la chefferie qui prend place présentement, ou au sein du Parti libéral, lorsque vraisemblablement Charles Meilleur aura remporté la course à la chefferie, s'il y a une autre alternative pour changer par rapport à ce qu'on a actuellement avec la CAQ, ben est-ce que là ça pourrait faire très mal au Parti québécois? Possiblement. Là, ça reste à voir. Mais pour l'instant, il y a quand même une certaine cohérence, malgré tout, pour des gens de dire « ben je ne vote pas pour le Bloc québécois, même si je suis souverainiste, je vote pour le Parti libéral du Canada, mais en même temps, je veux voter pour le Parti québécois. » Tout ça peut quand même si c'est contre-intuitif, se défendre.
En terminant, on parle de Pierre Poilievre. En fin de semaine, il devra affronter un vote de confiance. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter?
Les observateurs s'attendent à un bon résultat pour Pierre Poilievre. Il dit, avec raison, qu'il a augmenté les appuis envers le Parti conservateur lors de la dernière élection l'an passé par rapport aux élections précédentes. Et là, vraiment, c'est quelle comparaison, quelle analyse les conservateurs qui vont aller voter vont faire. Est-ce qu'ils vont se dire tout simplement, est-ce que Pierre Poilievre a amélioré par rapport au score précédent du Parti conservateur ou le comparer aux résultats dans les sondages que les conservateurs ont eus avant les élections, avant l'arrivée de Mark Carney, où les conservateurs menaient de beaucoup dans les sondages, et là, c'était une défaite, et que si la tendance se maintient, on le voit encore avec ces sondages-là, on se dirige vers une autre défaite. Pierre Poilievre ne semble pas présentement, à court terme, être la personne qui est capable de donner une autre victoire aux conservateurs, mais en même temps, il correspond dans une large mesure à l'esprit du temps, disons, chez les conservateurs. Il correspond aux valeurs conservatrices pour une partie des membres du Parti conservateur, même s'il y a des critiques envers lui, notamment, on l'a vu là dans les derniers mois, de deux conservateurs qui ont traversé la Chambre pour se joindre aux libéraux. Donc, il y a des éléments qui militent pour que les conservateurs, que les membres conservateurs votent en sa faveur, d'autres votent en sa défaveur, mais on est en terrain amical, ça, on s'attend plus à ce qu'il puisse bien performer, mais parfois on a des surprises. On se souviendra par exemple de Thomas Mulcair qui avait perdu carrément son vote de confiance. Et même s'il y a un appui majoritaire, mais à quel point sera-t-il fort? À quel point ça va donner, garder la légitimité complète pour Pierre Poilievre de continuer à rester chef?
Bon, voilà, c'est Mathieu Bélanger qu'on écoutait, notre analyste politique là qui revenait sur ce dernier sondage léger qui donne 58% d'intention de vote aux libéraux fédéraux, là, une hausse de 9 points. Il est 16h15. Dans un moment, on va parler de formation pour les enseignants qui se retrouvent sans brevet.
Ici Catherine Barry et Tania Devillers, vos pharmaciennes propriétaires de la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel-de-Brandon.
Arrêter de fumer n'est pas de mince affaire, mais saviez-vous que nous pouvons vous accompagner tout au long du processus? À la pharmacie, nous avons l'expertise pour vous aider dans votre démarche pour cesser de fumer. Nous pouvons vous assister dans l'élaboration d'un plan d'action personnalisé, vous conseiller sur les aides antitabagiques disponibles et même vous prescrire celles qui vous conviennent le mieux. Nous sommes également là pour vous donner des astuces pour gérer vos envies de fumer et les symptômes de sevrage. En résumé, Nous vous accompagnons à chaque étape pour vous aider à arrêter de fumer. La décision de vivre sans tabac est la meilleure que vous puissiez prendre dans l'intérêt de votre santé et de votre avenir.
Pour être bien conseillé, appelez-nous au 450-835-5071 ou passez-nous voir à la pharmacie au 185 rue Saint-Gabriel à Saint-Gabriel-de-Brandon.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs selon J.D. Power. Profitez de la liquidation sur un Kicks Play S 2025 avec des rabais jusqu'à 1 000 $ en financement et un taux à partir de 0%. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Cet hiver, viens vivre la magie du Festival 5 ombres en glace du 31 janvier au 15 février. Dès le samedi 31 janvier, assiste au spectacle d'Éric Landry à 12h30 au Parc de l'Harmonie, puis découvre l'atelier d'initiation à la sculpture sur glace de 13h à 16h. À 14h30, plonge dans l'univers de Mythes et Légendes. Et plus tard, ne manque pas la soirée au clair de lune avec les contes des Trappeurs de 5 ombres à 19h à la Halte à Gérard. Et le dimanche 1er février, spectacle de Martin Deschamps dès 13h. Festival 5 ombres en glace. Viens t'émerveiller. CFNJ sera sur place.
CFNJ. Lanneau d'IRPM. Éducation.
Il est 16h17. Bon, on a commencé à aborder le sujet hier avec le recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Christian Blanchette, la mise en place par l'Université du Québec à Trois-Rivières d'une formation formation qualifiante, on pourrait dire, là, dans la région de Lanaudière pour les enseignants qui n'ont pas leur brevet, qui suscite beaucoup de réactions positives. Il y a notre collègue Régent Turgeon qui a eu l'occasion de rencontrer le directeur général par intérim du Centre de services scolaires des affluents, Patrick Capoloupo, et également la directrice générale du comité régional pour la valorisation de l'éducation, Anne-Marie Picard. Il est allé récolter leur opinion.
M. Capoloupo, c'est une très bonne grosse nouvelle pour les affluents, mais aussi le Québec, que cette maîtrise qualifiante.
Oui, parce que je pense qu'on est pionnier dans ce qu'on veut faire. On a trouvé une solution pour répondre à la pénurie d'enseignants non qualifiés que l'on a un peu partout au Québec. Et je pense que la solution qu'on a mis de l'avant aujourd'hui, elle est réplicable ailleurs. Et nous, on s'est engagé à aider tout centre de service ou université qui voudrait profiter de notre expérience pour mettre sur place un tel programme ailleurs. Alors, on le dit, on va aider tous ceux qui seraient intéressés à le faire parce que ça donne des résultats.
Et là, ce qu'on doit comprendre, c'est que vous avez déjà une cohorte de 25 personnes enseignantes non détentrices de brevets qui vont recevoir cette formation.
Absolument. Puis ce qui est important, c'est qu'on donne à ces enseignants-là une logistique, une façon de faire que ça leur enlève une charge de travail de se rendre à l'université, par exemple, à Montréal. Là, c'est les enseignants qui viennent dans le milieu de travail avec nos enseignants élèves, hein, j'entends, pour parfaire leur connaissance. Dans un milieu où tout est concret, où l'enseignant a peut-être vécu des choses dans la journée, il peut en parler à son prof d'université et ça fait que tout le monde y gagne. Et l'enseignant d'université gagne des connaissances qu'il peut y avoir parce que le monde secondaire est changeant. Et évidemment, le prof élève, ben lui gagne à avoir des réponses à ses questions rapidement. Concrètement.
Ce qu'on doit aussi apprécier, c'est la contribution là, du gouvernement provincial. On parle du ministère de l'Éducation qui donne un financement de 516 000 $ à l'automne 2024. Et le pôle en enseignement supérieur de Lanaudière a contribué à hauteur de 35 000 $. C'était essentiel qu'il le fasse.
Absolument, parce que sans cette aide-là, ça sert à partir la roue. Vous savez, le gouvernement, lorsqu'ils ont vu le programme, ils ont vu le potentiel derrière ça, et ils se sont dit, ben oui, on va participer, on va vous donner un coup de main. Puis je tiens à le dire, pour vrai, là, il y a tellement de critiques qui se fait tout le temps sur les gouvernements, mais là, s'il n'y avait pas eu cette aide-là, on pourrait pas être ici aujourd'hui à avoir une cohorte de 25 profs élèves.
Ça faisait un bout de temps que cette formation-là est en préparation entre justement les affluents puis l'Université du Québec à Trois-Rivières. On l'improvise pas, là. C'était l'aboutissement d'une réflexion.
Absolument, parce que c'est un travail. Vous savez, il faut travailler la tâche des enseignants, il faut travailler avec les syndicats, il faut travailler avec la logistique. D'ailleurs, mon collègue qui était ici, qui est DGA, directeur général adjoint, M. Thierry Lauzon, a été un peu chef d'orchestre derrière ça. Il a travaillé avec l'université. On s'est assis ensemble. Ça a été honnête et on voulait avancer. Les deux entités voulaient avancer. Et grâce à ça, tout le travail qui a été mis en amont, ben, ça donne enfin des résultats aujourd'hui. Puis ça n'a pas été si long que ça. Ça a peut-être pris un an et demi de préparation. Et là, on a du concret.
Un soulagement pour vous, est-ce que ça vient quand même atténuer le fait qu'il y aura peut-être toujours une pénurie d'enseignants?
Bien, toujours. J'irai pas jusqu'à dire toujours, mais d'avoir des enseignants qualifiés, parce que l'enseignant est le facteur numéro un de la réussite de l'élève. Et ça, toutes les recherches le démontrent. Alors, puis on met des enseignants qui sont qualifiés devant une salle de classe, on leur confie 30 élèves, et doivent être qualifiés pour les amener le plus loin possible, les amener vers la réussite. Alors, c'est primordial, c'est la base de tout.
Madame Picard, une maîtrise qualifiante dans la Nodière, on parle d'une nouvelle approche pour former leur élève enseignante au secondaire. Belle initiative.
Le Créval est enchanté de cette initiative-là parce que, d'une part, ça correspond, ça répond directement aux besoins de notre région. Puis, d'autre part, la relation maître-élève, c'est un des déterminants essentiel à la persévérance scolaire, à la réussite éducative. Fait que notre souhait, c'est que ça s'étende dans toute la région.
Et là, ça va faciliter la vie de ces enseignants-là qui ont à combiner travail, famille et enseignement.
Oui, autant ça va jouer au niveau positivement sur la réussite des jeunes, mais aussi sur la fidélisation des enseignants. On a des difficultés de recrutement. Donc, ça rend déjà le métier beaucoup plus attrayant. Le soutien dont bénéficient les élèves de cette cohorte-là va leur aider à exercer leur métier puis à être plus heureux dans ce métier-là, en ayant des clés, des compétences de survie, comme on appelle.
On va entendre Anne-Marie Picard, la directrice générale du Créval, le comité régional pour la valorisation de l'éducation. Puis il y avait juste auparavant Patrick Capolupo, il est directeur général par intérim au centre scolaire de service des affluents. On en parlait depuis quelques années, c'était difficile de recruter des enseignants ayant des enseignants diplômés, donc ayant la compétence d'enseigner. Et là, on allait prendre de temps en temps, au primaire, par exemple, même au secondaire, des gens qui étaient pas nécessairement qualifiés, mais qui avaient une base, par exemple, des surveillants, puis on les plaçait comme enseignants. Et là, on pourra, grâce à la mise en place par l'UQTR, là, d'une formation pour, donc, si vous voulez, donner les ressources dont ces gens-là ont besoin pour devenir qualifiés pour enseigner, donc un brevet d'enseignement pour ces gens-là. C'est quand même une très bonne nouvelle. Voilà, il est 16h24, politique fédérale maintenant. Le premier ministre Mark Carney qui s'attend à ce que le gouvernement américain respecte la souveraineté du Canada par rapport à l'Alberta. On en parle de plus en plus, l'Alberta, mouvement indépendantiste qui commence à faire beaucoup, beaucoup jaser de lui. Ça fait jaser aux États-Unis. Il y a des indépendantistes albertains qui auraient eu des rencontres avec des responsables de l'administration Trump. Ils voudraient donc fusionner l'Alberta avec les États-Unis. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, qui a aussi déclaré que l'Alberta pourrait se joindre aux États-Unis. Mark Carney a été appelé à réagir là, au terme de la réunion des premiers ministres aujourd'hui du côté d'Ottawa.
J'attends à ce que l'administration américaine respecte la souveraineté du Canada tout le temps, sans exception. Et quand j'ai eu des conversations avec le président des États-Unis, je fais le point final. Et nous continuons à discuter comment nous pouvons travailler ensemble.
Puis Mark Carney avait raison quand il a parlé du partenariat entre francophones et anglophones après la bataille des plaines d'Abraham. Du moins, c'est selon Stéphane Dion, l'ex-ministre libéral et ancien ambassadeur en Europe, qui convient que le premier ministre a peut-être été maladroit dans son discours récent à Québec. Et en entrevue, Stéphane Dion a d'ailleurs affirmé là, que la cohabitation entre francophones et anglophones au pays est un modèle envié par le monde entier.
Il y a un pays qui a mis en place un autre modèle qui n'a pas annulé l'assimilation, mais qui l'a concurrencé. Et c'est le Canada. Et c'est grâce aux Canadiens français qui se sont tenus debout, qui se sont battus pour l'obtenir et qui l'ont obtenu. Et ça donne un pays que tout le monde admire dans le monde aujourd'hui, au point qu'on a comme principal problème qu'on est trop populaire et qu'il faut trouver une façon de contrôler nos frontières.
Il y a le premier ministre manitobain, Ewab Kinney, qui assure qu'il va travailler avec le futur gouvernement québécois, peu importe qui sera élu, et cette position contraste avec celle qui a été prise hier par son homologue ontarien, Doug Ford, qui a été vraiment choquante pour presque tous les politiciens au Québec. Là, premier ministre Ford qui avait affirmé que l'élection d'un gouvernement péquiste au Québec serait un désastre pour le Canada, et Ewab Kinney, le premier ministre Ewab Kinney, premier ministre manitobain, qui espère cependant que les Québécois vont rester au sein de l'unité canadienne.
Mais j'espère que les Québécois et Québécoises sont dans une situation de reconnaître qu'il y a une place pour eux dans l'Ouest du Canada aussi. Ils sont accueillis chez nous au Manitoba aussi.
Et finalement, des ratés liés au nouveau logiciel Curam qui affecte l'octroi des prestations de sécurité de la vieillesse aux retraités. On nouveau rebondit donc dans cette période de questions aujourd'hui aux communes, le député bloquiste Christine Normandin qui a dénoncé que des aînés aient dû attendre, imaginez-vous, plus de 9 mois pour recevoir leur premier chèque de pension de vieillesse, autrement dit, là, alors que d'autres ont reçu des chèques en trop. Le leader du gouvernement à la Chambre des communes, le ministre Stephen McKinnon, lui a répondu ceci.
Évidemment, il y a des fonctionnaires qui travaillent sur ce système qui font en sorte que les erreurs soient minimisées et voire même corrigées. Monsieur le Président, nous sommes confiants que cette bonne modernisation des systèmes du gouvernement va à terme permettre aux aînés de s'auto-inscrire, de mieux être servis, de recevoir leurs prestations encore plus rapidement.
C'est du gros n'importe quoi, là. Qu'est-ce qu'il a dit, le gars? C'est à peu près n'importe quoi. On essaye de s'excuser d'une certaine façon, mais on ne s'excuse pas directement. Bon, il est 16h28.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
La métropolitaine pour Charles de Gaulle, c'est dense depuis le boulevard Saint-Jean-Baptiste, et ça jusqu'à environ 500 mètres passé le boulevard Henri-Bourassa, traversée facile vers la rive nord Repentigny. Ça se passe très bien, la 40 Est. 341, la montée de l'Épiphanie entre la 40 et la rivière. L'Assomption, c'est passablement lourd en ce moment. Pont Le Gardeur, accès facile autant par Sherbrooke que par Notre-Dame. La 25 Nord maintenant, depuis le boulevard Lévesque, c'est un peu dense. Salle demeure jusqu'environ 1 km passé la 440, traversée facile vers l'île Saint-Jean et Terrebonne, 25 Nord, là, Terrebonne-Mascouche, ça va très bien en ce moment. Pont Sophie-Masson un peu dense à l'approche, sinon la traversée est facile vers Terrebonne. Et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40, là, c'est assez dense depuis environ un bon kilomètre avant la montée des pionniers pour la 40 et en direction ouest, un petit peu plus lourd là, à l'approche de la montée du Mai. Pierre Jubinville sera là dans un instant avec l'actualité.
Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Toujours 5 000 $ à gagner dimanche à 10h05 avec les trois jeux et mercredi, bingo spécial à 19h30, carte pleine à 5 000 $. Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Crabtree Dépanneur du Centre, Dépanneur Crabtree Vidéo, Marché Beaulieu, l'Expert Dépanneur. À Notre-Dame-de-Lourdes, dépanneur Gabi, les délices de Lourdes. À Sainte-Élisabeth, dépanneur chez Napol. À Saint-Félix-de-Valois, dépanneur Estelle. Métro Boucher, Tabagie Saint-Félix, dépanneur Proxy Extra. Et marché IGA Rainville. À Saint-Jean-de-Mata, supermarché Métro, l'Expert dépanneur. Marché Express Ultramar, dépanneur du Lac-Noir. Et à Saint-Damien, marché Métro Imerie, dépanneur Le Rendez-Vous. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Venez découvrir la gamme de côte-à-côte Honda Pioneer chez JM Sport Saint-Gabriel. Pour vos journées de travail ou de belles aventures en famille, nous vous guiderons vers le Honda Pioneer qu'il vous faut. JM Sport Saint-Gabriel, une entreprise familiale depuis 1987.
Bonjour, c'est Kim de Joliette-Nissan. Nous sommes fiers de faire partie de votre communauté depuis maintenant 5 ans. Merci pour votre confiance, votre fidélité et votre soutien. Pour célébrer, nous vous offrons 4 changements d'huile gratuits à l'achat d'un Rogue et 2 changements d'huile gratuits à l'achat d'une Sentra, d'un Kicks ou d'un Kicksplay. Chez Joliette Nissan, ce qui compte le plus, c'est vous. Merci de rouler avec nous depuis 5 ans et pour les années à venir.
Ici Catherine Barry et Tania Devillers, vos pharmaciennes propriétaires de la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel-de-Brandon.
Avant de partir en voyage, pensez à préparer une trousse santé à apporter avec vous. Nous allons la personnaliser afin qu'elle convienne à vos besoins et aux risques de votre destination. Lorsqu'on voyage, il est également recommandé de s'informer sur les différentes maladies possibles. Nous pouvons vous prescrire un antibiotique pour la diarrhée du voyageur et un traitement préventif pour la malaria ou le mal aigu des montagnes. Et n'oubliez pas de mettre à jour votre carnet de vaccination. Nous pouvons vous prescrire et vous administrer les vaccins nécessaires.
Pour être bien conseillé, appelez-nous au 450-835-5071 ou venez nous voir en pharmacie au 185 rue Saint-Gabriel à Saint-Gabriel-de-Brandon.
L'actualité de ce jeudi 29 janvier en manchette. Charles Milliard est le seul dans la course à la direction du Parti libéral. De l'argent pour les aidants naturels et programme Expérience Québec, le gouvernement pourrait bouger dès demain. Et Pierre Jubinville, tout d'abord, il n'y a plus qu'un seul candidat à la direction du Parti libéral.
Oui, puisque la candidature de Mario Roy, le Beauceron, à la direction du Parti libéral est rejetée par la direction du PLQ. Roy, qui traîne une dette de 18 000 $ accumulée durant la précédente campagne à la direction, devait déposer 30 000 $, dont 15 000 en dons. Il devait aussi obtenir 750 signatures dans 70 circonscriptions. Le PLQ estime que M. Roy ne réussira pas à atteindre ses objectifs. En début de semaine, Roy avait confié qu'il avait de la difficulté d'ailleurs à financer sa campagne. À moins d'une candidature du champ gauche, Charles Milliard sera couronné.
Ou la voie est libre pour Denis Coderre, qui sait.
Pas lui.
Les aidants naturels qui pourront être rémunérés.
Oui, on peut dire enfin, puisqu'ils vont être rémunérés pour leur travail auprès de leurs proches malades. C'est la principale mesure contenue dans la nouvelle politique nationale de soutien à domicile présentée aujourd'hui. Stéphane Boucher nous raconte.
Les proches aidants dans certaines situations et après évaluation pourraient être reconnus comme prestataires de services de soutien à domicile, un statut qui leur donnerait droit à une rémunération. La ministre de la Santé et des Services sociaux, Sonia Bélanger.
C'est une avancée importante. C'est un changement majeur et une marque de reconnaissance envers les personnes proches aidantes.
Québec mise également sur les organismes d'économie sociale qui offrent du soutien à domicile.
Nous allons donc augmenter leur financement. 21 millions dès maintenant.
Les CLSC auront également un rôle élargi.
Accueillir la personne et son proche aidant, offrir une première prise en charge et l'orienter vers les bons services.
400 000 Québécois requièrent du soutien à domicile. Le budget qui leur est consacré atteint désormais 2,6 milliards de dollars. Stéphane Boucher, Cogeco Nouvelles.
Fichu de bonnes nouvelles, et il était temps. D'ailleurs, on se réjouit, là, Pierre, chez les proches aidants.
Oui, Geneviève Coutu a quitté son emploi pour prendre soin de son mari atteint de la maladie d'Alzheimer, qui est finalement décédé l'automne dernier. Elle se réjouit de la meilleure reconnaissance pour les proches aidants. Madame Coutu se demande cependant si l'aide sera adaptée aux cas les plus lourds.
Parce que le but, c'est vraiment de désengorger les CHSLD et que les proches aidants puissent garder leurs proches à la maison. Mais si on a un salaire quelques heures par semaine à 21 $ de l'heure, quand on fait du 24/7, je ne sais pas si ça va être suffisant.
Bon, maintenant, une nouvelle qui fait beaucoup parler depuis plusieurs jours, l'abolition du programme Expérience québécois qui continue d'inquiéter.
Oui, on parle de 6300 travailleurs de la santé qui pourraient être touchés. Et la CSN demande à son tour au gouvernement de permettre aux immigrants qui bénéficiaient du programme Expérience Québec d'obtenir en quelque sorte une clause grand-père. Le syndicat estime que 25 professeurs de l'UQAM pourraient devoir quitter l'institution. Carl Marchand.
Recruter à l'international est chose courante pour les universités. Or, le syndicat des professeurs de l'UQAM estime que le Québec manque à sa parole. Alessandro Morales Borrero a quitté un poste aux États-Unis pour venir à Montréal et pourrait devoir partir.
Mes collègues m'ont dit que j'étais sélectionné parmi environ 200 candidats. Nous nous sentons abandonnés
désillusionné pour cette décision.
La CSN réclame une clause grand-père pour ceux et celles qui sont déjà participants du PEC. La présidente Caroline Senneville estime que le Québec se prive d'une manne incroyable et tourne le dos aux professeurs qui quittent les universités américaines en raison de la liberté académique qui est menacée.
Au lieu de se mettre en position pour dire que ça serait une occasion d'enrichir notre bassin professoral, ceux qu'on a sélectionnés parmi 200 personnes, on leur dit ben, « ciao, bye ».
La CSN demande aussi au gouvernement de suspendre son moratoire sur l'émission de permis de travail pour les immigrants à Montréal et Laval. Ici Carl Marchand, Cogeco Nouvelles, Montréal.
Et Pierre, le gouvernement qui pourrait d'ailleurs corriger le tir dès demain.
Oui, il y a des rumeurs, à tout le moins. Le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, ferait donc demain une annonce concernant le programme Expérience Québec, questionné sur l'impact dans le réseau de la santé et des services sociaux. Sonia Bélanger, la ministre, s'est dite extrêmement préoccupée alors que le réseau a besoin de ses travailleurs.
Les proches aidants, dans certaines situations et après évaluation, pourront être reconnus comme prestataires de services à l'allocation d'autonomie à domicile au même titre que d'autres travailleurs. C'est une avancée importante.
Bon, on a écouté Sonia Bélanger, mais semble-t-il que c'est
bon, ben justement, elle devait nous parler de l'impact pour la santé. C'est 6300 personnes qui seraient touchées, qui quitteraient leur emploi. Ils seraient forcés de quitter le réseau. Alors, c'est une grosse nouvelle. Allez.
Encore des ratés à Ottawa à cause d'un logiciel?
Oui, surprenant, hein, n'est-ce pas? Alors, c'est lié au nouveau logiciel Curam qui affecte l'octroi des prestations de sécurité de la vieillesse aux retraités. Et évidemment, ce problème a rebondi à la période des questions. La députée bloquiste Christine Normandin a illustré des problèmes auxquels les aînés sont confrontés.
D'un côté, il y a des 65 ans et plus qui ont reporté leur pension un plus tard et qui sont privés de chèques depuis 9 mois quand ils finissent finalement par les réclamer. De l'autre côté, il y a des personnes qui reçoivent des chèques en trop, qui les retournent, mais qui se font quand même envoyer des T4A. Oh. Pendant ce temps-là, le gouvernement fait rien, même si ses propres fonctionnaires l'ont averti que le logiciel était plein de bugs.
Et maintenant, on parle encore de référendum à Ottawa.
Oui, et on va en parler pour longtemps, j'ai l'impression, au moins pour 2 ans. Alors, les propos du premier ministre ontarien sur le Québec ont continué de retenir l'attention à la réunion des premiers ministres qui se déroule à Ottawa. Mark Carney et François Legault ont tous les deux été appelés à dire s'ils pensaient, eux aussi, que l'élection du Parti québécois serait un désastre. Les premiers ministres ont montré un front uni au terme de leur réunion à Ottawa.
La prochaine élection au Québec sera en octobre, je crois. Il y a 9 mois, il y a plusieurs partis, il y aura des nouveaux chefs des partis, on verra. Ce sera la décision des Québécois et des Québécoises.
C'était pas une bonne idée que c'est aux Québécois de décider, puis que les Québécois aiment pas que ça soit M. Trump ou M. Carney ou M. Ford ou peu importe. Les gens qui sont de l'extérieur du Québec, c'est aux Québécois de décider de l'avenir du Québec.
Moi, je pense qu'unanimement, tous les chefs des partis politiques au Québec se sont entendus pour dire que Doug Ford devait se mêler de ses affaires.
Oui.
Projet de quartier universitaire à Terrebonne qui prend forme.
Il prend forme, mais il prend aussi du retard, semble-t-il. En mai 2024, le gouvernement avait accordé 500 000 pour la création et la mise en opération d'un bureau de projet. Le dossier n'avance pas et le recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, lequel pilote le projet, Christian Blanchet, tente de se faire quand même rassurant.
Non, écoutez, on est déjà depuis longtemps en conversation avec la nouvelle ministre Biron, puis tout le monde, le travail s'est bien fait dans la région. On reconnaît le besoin de la Nausière pour avoir une hausse dans l'offre universitaire, donc tout ça est sur les rails. Bien confiant qu'on pourra régler le dossier dans les prochains mois.
Et puis en terminant, Pierre, la pression diminue au Minnesota.
Celui qu'on appelle le tsar des frontières aux États-Unis, Tim Homan, firme aller vers une réduction du nombre d'agents de ICE au Minnesota. Il faudra d'abord coopérer avec les autorités locales. Il s'est exprimé aujourd'hui pour la première fois après avoir été envoyé sur place par Donald Trump cette semaine pour calmer le tout. Il affirme qu'il y aura dorénavant des opérations de contrôle ciblées, mais pas de renoncement à la mission d'appliquer les lois sur l'immigration.
Merci beaucoup, Pierre Jubainville. Bonne soirée.
Lanaudière PM. Claude Fournel.
Et puis ailleurs, scène politique québécoise, les députés de Québec solidaire qui étaient réunis aujourd'hui en caucus à Montréal pour préparer la prochaine session parlementaire qui va s'amorcer la semaine prochaine à l'Assemblée nationale et qui sera la dernière, faut-il le rappeler, avant les prochaines élections au Québec. La co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Gazal, qui a indiqué que son parti est toujours préoccupé là par la crise du logement et la hausse du coût de la vie. Selon Ruba Gazal, les députés solidaires sont très attentifs au coût du panier d'épicerie poussé à la hausse, là, faut le dire, par la marge de profit là, des géants de l'alimentation. Quelque chose que l'on verrait pas sous un gouvernement de Québec solidaire, du moins selon elle.
Un gouvernement solidaire va forcer les grandes bannières d'épicerie à faire preuve de transparence en ouvrant leurs livres comptables pour s'assurer que leur marge de profit ne dépasse pas le 2 % Juste avant la pandémie, c'était 1,6 % la marge de profit des grandes épiceries. Et après, aujourd'hui, ça a explosé. Donc, ils peuvent eux aussi faire leur part.
Bon, triste histoire. Après les événements dramatiques du côté de Manawan, il y a un double meurtre vraisemblablement lié au crime organisé qui s'est produit hier soir dans la communauté Cree de Mistissini dans le nord du Québec. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a exprimé son soutien à la population lorsqu'il était en mêlée de presse là, aujourd'hui du côté de Saint-Georges-de-Beauce.
Simplement dire qu'on est de tout cœur en toute solidarité avec cette communauté qui a, de ce qu'on comprend, est devant un drame humain très important. Nos pensées sont avec eux, puis évidemment que le gouvernement du Québec doit tout faire en termes de soutien dans ces circonstances-là.
On parlait hier avec le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, de l'État pitoyable de la rue Baudry à Joliette, du moins la section là qui est sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec. Et là, on apprend qu'il sera impossible au rythme actuel de rattraper le déficit d'entretien dans les infrastructures routières. Ça, c'est selon l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec et son président, Marc-André Martin, indique que chaque année, la part du lion du budget du ministère des Transports va au nouveau projet et ce n'est qu'ensuite que vient l'entretien du parc déjà existant. Et Marc-André Martin rappelle que la majorité des grandes infrastructures datent des années 60-70 et sont en fin de vie utile. On l'écoute tout de suite.
Le réseau va continuer à se détériorer. Donc, on ne programme pas assez de travaux, mais on sait très bien que qu'est-ce qu'on programme, on ne réalise pas au complet non plus. Donc, on s'en va dans le fond, on creuse notre tombe en ce moment au niveau des infrastructures. On assiste en temps réel à l'effondrement de l'état des infrastructures en temps réel. C'est ça qui se passe en ce moment.
Et c'est le problème qu'on a présentement là du côté de Joliette avec ce prolongement de la rue Baudry. En fait, le prolongement plutôt, la section qui est gérée par le ministère des Transports du Québec. On répond absolument n'importe quoi quand il est question de repaver cette section de la rue Baudry. Ça fait pas de sens. On écoutait hier le maire Pierre-Luc Bellerose qui, avec raison, là, est en beau fusil contre le MTQ. On peut le comprendre. Là, semble-t-il que c'est une question de vitesse, c'est-à-dire de qui la vitesse autorisée. C'est pour ça que, étant donné que c'est pas du 70 km/h, c'est du 50 km/h, ben là, on peut attendre un peu plus longtemps. Il y a moins de danger. Bon, voilà. Il est 16h44. Dans un instant, Jacques Plante.
Seule coopérative funéraire dans la Naudière, la coopérative funéraire de Matawinie-Montcalm répond aux demandes des membres et non-membres avec respect et écoute. 5 points de service à travers 2 MRC, 450-886-3763 et 450-839-3450.
La clinique podiatrique de Joliette vous informe.
Les orthèses plantaires, efficaces pour soulager plusieurs pathologies des pieds. Fabriquées sur mesure, elles s'adaptent à votre style de vie et vos chaussures. Prenez rendez-vous pour un examen biomécanique. 450-398-PIED, 398-7433 ou podiatrejoliette.com.
Venez découvrir la gamme de côte à côte Honda Pioneer chez JM Sport Saint-Gabriel. Pour vos journées de travail ou de belles aventures en famille, nous vous guiderons vers le Honda Pioneer qu'il vous faut. JM Sport Saint-Gabriel, une entreprise familiale depuis 1987.
Après les fêtes, vos cartes sont pleines? CFNJ vous propose une carte pleine pas mal plus payante avec son Super Radio Bingo. Et jusqu'au 11 février, vous avez deux fois plus de chances de gagner. En plus des bingos du dimanche matin à 10h05, avec 5 000 $ à gagner avec les trois jeux, pour un temps limité, CFNJ vous offre ses bingos spéciaux avec carte pleine à 5 000 $ tous les mercredis à 19h30. Il y a des cartes pleines qui sont plus agréables que d'autres. Où se procurer vos cartes du Super Radio Bingo? La liste des dépositaires est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu. Au concert du dimanche à CFNJ, bon dommage. Le concert du dimanche, dimanche matin, 7h à CFNJ.
À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
Salut Jacques.
Salut Claude, bonjour tout le monde.
Course à la chefferie du Parti libéral du Québec, Charles Millard qui est en route vers un couronnement.
Les carottes sont cuites. C'est un peu, on s'attendait à ça cependant. Monsieur Roy, Mario Roy de son nom, là, le Beauceron, qui traînait une dette de la première campagne.
Oui.
On avait dit, peut-être un peu en boutade, il va recevoir le traitement Coderre. Parce qu'on le sait, Denis Coderre aurait aimé se présenter lui aussi, puis on l'a refusé pour des questions financières et compagnie. Et là, si on fait le calcul assez rapide, Claude, c'est que il y avait une dette de la première course de 18 000 $ Et là, on exige un dépôt de 30 000 t'es rendu à 48 000 piastres, là.
Et là, en plus des signatures aussi, 750 membres en règle qui devaient signer, provenant d'au moins 70 comtés.
Ouais.
C'est un peu difficile à faire pour quelqu'un comme lui, là.
C'est évident que ça avait été quelqu'un avec un peu plus de popularité, là, une grosse pointeuse, c'est peut-être plus facile.
Mais ça semblait plutôt un candidat loufoque, tant qu'à moi, là.
Ouais, mais il reste quand même qu'il y avait des idées pas si folles que ça, puis tout le monde a le droit de se présenter, sauf que faut que tu sois ferré quand même. Et là, ce qui a été la décision, c'est que la direction du Parti libéral du Québec, elle exigeait le remboursement de la dette de la première course.
Le 18 000 $
18 000 avant même d'avoir à déposer, si possible, le 30 000 $ pour la nouvelle course. Alors, ce qui s'annonce d'ici la mi-février, là, où ça va se compléter, c'est le 13, hein, de mémoire.
13 février, oui.
Juste avant Saint-Valentin, ça, où c'est dans le bout, là, hein, le 14 de Saint-Valentin, c'est ça.
L'abeille.
Oui, c'est ça, une histoire de cœur.
Alors, on va couronner, semble-t-il, Charles Millard.
T'auras un couronnement.
Mais là, il part en tournée à travers le Québec, parce que là, le problème, c'est que Charles Millard, il doit se faire connaître.
Oui, d'une part, et ce qu'il a également mentionné, c'est que dès qu'il est élu, il veut être beaucoup, il veut se promener en région, comme tu viens de le dire, mais il a dit aussi qu'il voulait être très présent à l'Assemblée nationale, parce qu'il a le droit d'être là, il y a des députés d'élus, alors il peut être là, utiliser la salle de presse, il peut pas être en chambre, là, évidemment, parce que c'est pas un élu, là, comme tel.
Mais contrairement à Pablo Rodriguez, on le connaissait depuis nombre d'années tant que ministre fédéral. Et là, si je vais faire un vox pop, par exemple, là, au marché, à côté, là, puis je vais me promener avec mon micro, puis parlez-moi donc de Charles Millard, qu'est-ce que vous pensez de Charles Millard, je te dirais qu'il y a peut-être une personne sur 10 qui va savoir c'est qui Charles Millard.
Exactement. Moi, je connaissais, quand on a parlé du nom de ce bonhomme-là, j'ai fait un lien tout de suite, parce qu'avec ce que je fais dans le milieu, au niveau du monde des entreprises, des affaires, c'était le PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec.
Mais il faut rappeler quand même que c'est quelqu'un qui est connu ici dans la Naudière pour avoir travaillé au Festival de la Naudière, entre autres.
Ça, je savais pas.
Alors, quand même, on a une certaine connaissance. C'est un nom qui a circulé dans la région.
Ben, c'est pas pour rien qu'il a fait son lancement à Yamachiche, là. Il connaît quand même un peu...
Port de la Mauricie.
Oui, c'est ça.
Mais, quand même, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail à faire d'ici l'élection pour se faire connaître. Ouais. Rappelle-toi, Paul Saint-Pierre Plamondon aussi, ça y a pris quand même un bon moment avant de se faire connaître, avant de se faire un nom. Là.
Non, là, il faut, comme on dit dans le milieu, prendre le bâton du pèlerin puis partir à la chasse aux électeurs. Moi, ce que j'ai hâte de voir dans les gestes qu'il va poser ou pas, parce que Grégory Kelly, ça te dit quelque chose?
Greg Kelly, qui a recommencé à se manifester là, cette semaine.
On l'a vu dans des...
À l'Assemblée nationale, il était... presque persona non grata, en ce sens que, ouais, il était effacé parce qu'il faut rappeler que c'est le conjoint de Marois Risky qui est député aussi.
Mais on voyait là le chef par intérim qui donnait un point de presse parce que tout le monde est en caucus là. Mm-hmm. L'Assemblée nationale reprend mardi prochain. On le voyait dans le tableau et lui, ce qu'il dit avec M. Milliard, il compte bien sur le fait que peut-être il va réhabiliter Marois Risky.
Oui, mais Marois Risky ne se représentera pas.
Oui, elle l'avait annoncé.
Oui, de toute façon.
Il reste que comme je disais l'autre fois et je maintiens ça, c'est la personne qui a sonné la cloche, qui était pas d'accord avec ce qui s'est passé. C'est elle qui a été blastée de A à Z.
C'est carrément une lanceuse d'alarme.
Exactement. Mais la madame, elle a fait une job, puis moi, j'apprécie ça.
Pour qu'elle puisse bien terminer sa carrière politique, il faudrait
ouvrir la porte.
La réintégrer au Parti libéral. Ça va de soi.
Exactement.
Bon, autre chose qu'on va suivre de près, parce que ça débute là du côté de Calgary, c'est ce congrès des conservateurs fédéraux qui va culminer par le vote de confiance à l'endroit du chef conservateur Pierre Poilievre.
Oui, exactement. Il y a quelque chose, on dit là, comme 2 à 3 000 délégués qui sont là. Il y a plein de résolutions qui vont passer parce que ça va aussi, on utilise ça pour bâtir une plateforme électorale. Mm-hmm. Pour une prochaine campagne, évidemment. Et comme tu l'as évoqué, ben on va trancher sur le sort de Pierre Poilievre. C'est assez partagé hein, comme opinion pour l'instant. Il y a des gens qui disent, je lisais tantôt des commentaires de gens mm-hmm. qui sont là-bas, autant des gens du Québec, conservateurs du Québec que conservateurs d'un peu partout, disaient, moi je m'en vais là pour le dégommer.
Oui, mais attention, il y a une chose là, c'est que ça se déroule à Calgary.
Oui.
Il est dans un terrain à Calgary, en fait, en Alberta. C'est un terrain acquis, c'est un territoire acquis.
Oui.
Il y aura beaucoup, beaucoup d'Albertains qui seront présents. On sait que le Parti conservateur est très populaire en Alberta. Mm-hmm. Il est chez eux. Et là, les gens ne peuvent pas voter de façon électronique, que ce soit par téléphone ou encore par Internet. Alors, faut qu'on se déplace. Alors, moi, je pense à des gens du Nouveau-Brunswick, du Québec, de l'Ontario. Faut qu'ils se déplacent s'ils veulent le dégommer. Il faut qu'ils se déplacent là-bas.
Je regardais tantôt juste au niveau des chiffres. Là,
mm-hmm.
Pour s'inscrire au congrès, 1 000 $.
Ouais.
Et là, il y a quelqu'un qui disait, si on calcule la chambre d'hôtel, le déplacement, l'essence, là, si on vient de province à côté.
L'avion.
Ou l'avion.
Ouais.
La bouffe et tout ça, ça dépasse le 2 000 $. Cependant, petite technicalité importante à la lumière de ce que tu viens de dire, seuls les délégués qui ont été sélectionnés par leurs associations de circonscription ont le droit de voter, ce qui limite le nombre de voix. Mmh. Alors, comment tout ça a été balancé dans l'ensemble du Canada, ça reste à voir.
Moi, mon impression, c'est qu'il va se retrouver avec quelque chose comme entre 80-85%. Ça, c'est mon impression.
Il était généreux.
Oui. Mais je te dis, c'est mon impression parce que ça se passe à Calgary. Ça se passe à Calgary. Mais le problème, c'est que il y a des gens qui vont être mécontents et là, ça pourrait amener des transfuges au Parti libéral.
Ben, tu sais, moi, je me dis, il faut absolument qu'il aille chercher quelque chose entre 70 et 75.
Ah, moi, je te dis, ça va être plus que ça.
Si c'est en bas de ça, est-ce qu'il va décider de s'accrocher quand même? Parce qu'il peut le faire.
Rappelons-nous, Bernard Landry, là, c'était 76%.
Il y avait
claqué à la porte.
Oui, juste ça.
Ouais.
La dernière fois qu'un chef conservateur a été soumis à un vote de confiance dans le cadre d'un congrès national comme ça, c'est il y a 20 ans, Claude avec Stephen Harper qui avait obtenu 84% des délégués de son parti. C'était à Montréal en 2025 mm-hmm. et il avait remporté par la suite les élections de janvier 2006.
Ouais.
Donc, reste à voir. Il y a des gens qui ont dit s'il y a moins de 70%, je pense qu'ils devraient quitter.
Alors moi, je vous dis, plus de 80%.
Ah, on va voir. Les paris sont faits.
On s'en reparle la semaine
prochaine.
Oui,
absolument. Salut.
16h54, merci d'avoir été là pour cette autre édition de Lanaudière PM. Je salue nos collaborateurs Mathieu Bélanger, François Morin, Régent Turgeon, Pierre Jubinville, ainsi que Jacques Plante. Nous, on est en congé. Demain, on va se retrouver lundi pour une autre édition de Lanaudière PM. La vie dans Lanaudière vous amène à Notre-Dame-des-Prairies dans les prochaines minutes et manquez pas de l'autre côté de l'actualité de 17h, de 5 à 7 trad avec Nicolas Bellemare. Ici Claude Fournel. Bonne soirée!